C'est une période fondamentale de l'histoire de l'humanité, une époque charnière au cours de laquelle naissent les premières sociétés villageoises avec une histoire rurale qui rompt avec les temps de la chasse et de la collecte. On appelle cette période la proto-histoire. Elle s'est illustrée entre 7000 et 2000 avant notre ère. Et le professeur Jean Guilaine, spécialiste du néolithique, lui consacre un ouvrage pour nous raconter ce qu'il y avait avant l'histoire et comment étaient organisées les sociétés. C'est le dossier de l'émission dans un instant avec vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé. L'attaque. Agnès Fèvre, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, cette alerte mondiale de 15 000 scientifiques à travers la planète sur la dégradation de l'environnement.
Oui, il y a 25 ans, les scientifiques nous prévenaient déjà du risque de collision pour le monde naturel, mais depuis pas grand-chose. La planète est même en très mauvais état, d'où cet avertissement à l'humanité. On en parle avec un des signataires de l'appel, le biologiste Pierre-Henri Gouillon.
Et puis comme tous les mardis, nous retrouverons nos amis de France 5 pour la soirée science grand format, consacrée ce soir à la pyramide mexicaine de Teotihuacan. C'est Fanny Boyon qui réalise cette tête au carré qui a été préparée par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La proto-histoire, ce sera donc le dossier de l'émission dans un instant avec mon invité Jean Guilaine, que je salue. Bonjour à vous.
Bonjour.
Jean Guilaine, on connaît peu ce terme finalement de proto-histoire. Qu'est-ce qu'il désigne exactement? On va peut-être le dater, on rentrera dans les détails après, mais au moins sa période.
Le dater au Proche-Orient, par exemple, où apparaît le néolithique, en gros, on va prendre des chiffres ronds, entre 10 000 et 3 000, lorsqu'apparaissent les premières civilisations historiques, avec l'écriture, la ville, l'État.
Oui. Et rien que ça.
Et oui. Et puis en Occident, alors, en gros, depuis le néolithique, autour de 6 000, 5 000, 500 avant notre ère, en gros, jusqu'à la conquête romaine.
Ouais. Donc voilà. C'est vraiment une époque charnière pour l'humanité.
De plusieurs millénaires. Ouais. Et qui va au-delà de ce qui est annoncé dans le titre de l'ouvrage. C'est-à-dire que on peut arriver dans nos régions jusqu'au premier siècle avant notre ère.
On va raconter cette histoire avec vous dans un instant. Et puis vous répondrez donc au message des auditeurs qui nous rejoignent. Jean Guilaine, à tout de suite. C'est la deuxième alerte des scientifiques sur l'état de la planète depuis le sommet de la Terre à Rio. C'était en 1992. 15 000 scientifiques donc, 184 pays qui viennent de publier dans la revue Bioscience un avertissement à l'humanité. On en parle avec notre invité Agnès Fèvre.
Pierre-Henri Gouillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste spécialisé en biodiversité au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors à lire l'avertissement que vous avez co-signé, notre planète va plutôt mal. Elle est dans quel état?
Elle est dans l'état d'un système dynamique complexe, extrêmement complexe, tout le monde peut s'en douter, ça va depuis la complexité du fonctionnement physique de l'atmosphère, des océans, de tout ce qui peut se passer au niveau de la planète physique, et puis toute la complexité du monde vivant qui ajoute encore une couche de complexité. Tout ça, c'est quelque chose de non seulement complexe, mais aussi de dynamique, et actuellement on constate que cette dynamique, eh bien, elle va vers ce qu'on appelait un effondrement. C'est-à-dire que tout est en train de se casser la figure.
Donc les forêts ont disparu, les ressources en eau s'amenuisent, c'est ça dont vous rendez compte?
Les ressources en eau s'amenuisent, le climat est en train de franchir des limites qu'il n'avait pas franchies depuis belle lurette, les effectifs des populations d'êtres vivants s'effondrent. Et donc voilà, je pense qu'il est temps que pour nous scientifiques de dire à nos contemporains que si jamais ils veulent laisser une terre vivable pour leurs enfants, il va falloir qu'ils se dépêchent beaucoup plus que ce qu'ils font actuellement.
Et les mauvaises nouvelles s'enchaînent, hein, Pierre-Henri Gouillon, puisqu'après 3 ans de stagnation, on apprenait là cette semaine que les émissions de CO2 sont reparties à la hausse en 2017, 2% de plus par rapport à 2016. C'est assez désespérant quand même ce qui se passe en ce moment sur la planète, non?
C'est un côté désespérant, il y en a qui désespèrent complètement, moi je fais pas partie de ceux qui désespèrent complètement, il y en a qui sont très optimistes, qui disent « oh mais on va leur expliquer, ils vont finir bien par prendre les bonnes décisions ». Moi je suis un peu intermédiaire, j'ai tendance à penser qu'on fera pas l'économie de catastrophes d'ampleur relativement grande, mais que peut-être si on a suffisamment averti les gens avant, quand les catastrophes surviendront, ils sauront ce qu'il faut faire au moins.
C'est d'ailleurs tout l'objet de cet appel. Vous dites qu'il sera bientôt trop tard, donc on peut encore agir.
Ça dépend ce qu'on appelle trop tard. Si jamais, pour moi, il est déjà trop tard pour éviter des choses très désagréables.
Par exemple, mais, dites-nous quoi, par exemple.
Le réchauffement climatique, 2 degrés, c'était déjà beaucoup, et c'est peu probable qu'on arrive à limiter à 2 degrés, dans l'état actuel des choses. Donc, même si jamais... les choses se stabilisent, vous voyez, on espérait que ça allait diminuer, ça augmente, donc en réalité on sait bien qu'on n'est pas capable de réagir à la vitesse qu'il faudrait. Et donc espérer que tout d'un coup tout va changer du jour au lendemain, ça me semble pas raisonnable. Mais donc voilà, il est trop tard pour qu'on subisse pas des conséquences très désagréables de ces questions. Maintenant, il est encore temps de prévenir les gens pour que quand ces conséquences arriveront, ils soient capables de réagir assez vite. Que de toute façon, entre le moment où on réagit et puis le moment où les choses s'arrangent, il y a un délai, de plusieurs dizaines d'années.
Oui, alors vous dites il est trop tard pour le réchauffement climatique, mais quels sont les changements qu'on peut encore mettre en œuvre ?
Non, mais il n'est pas trop tard pour le changement climatique, parce que si on met
vous dites pour les deux degrés,
non, fois pire, hein.
Pour les deux degrés, là, on est mal parti pour contenir le réchauffement beaucoup, dans hein. La limite des deux degrés.
Ça, voilà, c'est ce que vous venez de dire. Ça, pour les deux degrés, voilà. Pour moi, j'y crois plus, mais bon.
Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Parce que là, il y a pas mal de préconisations, il y en a plus d'une dizaine. Quelles sont celles qui sont réalisables aujourd'hui ?
Pour moi, tout est réalisable. Ça va depuis le fait de faire ce qu'on peut pour que la démographie humaine reste dans des limites convenables, c'est-à-dire d'éviter qu'il y ait des gens tellement pauvres qu'ils sont obligés de faire des enfants pour pouvoir assurer leur survie, qui en plus n'ont pas d'éducation, pas accès à la limitation des naissances, etc. Ça fait partie des choses qui sont évidemment souhaitables. Il y a aussi le fait de limiter l'utilisation de gaz à effet de serre, le fait d'arrêter de faire une agriculture qui déforeste à fond et qui recrue le tout avec de la chimie, le fait alors d'utiliser des carburants fossiles en quantité, de subventionner ce qui va dans le mauvais sens en subventionnant peu ce qui va dans le bon sens. Donc voilà, il y a énormément de choses qui peuvent être faites très rapidement. Donc si vous parlez de faisabilité, tout est faisable. Si vous parlez d'acceptabilité, qu'est-ce que les gens sont prêts à accepter ? Ça, c'est plus compliqué. Je ne sais pas exactement ce qu'il faudra qu'il se produise pour que les gens se mettent à comprendre qu'il faut qu'ils acceptent de faire des efforts. À réduire la quantité de viande qu'on mange tous les jours, c'est pas très compliqué. Simplement, il faudra que les gens soient conscients du fait que c'est important. Mais il y a un autre aspect. Il y a deux aspects. C'est l'acceptabilité pour l'ensemble des humains, d'une part, et puis la capacité de nos systèmes politiques à résister à des lobbies qui vont jouer contre toutes ces modifications qui sont nécessaires.
Pierre-Henri Gouillon, pourquoi la première mise en garde des scientifiques, donc en 92, avait eu si peu d'écho, et est-ce que vous êtes plus positif, plus enthousiaste, en tout cas cette année-là, avec cette mobilisation énorme, hein, 15 000 scientifiques à travers le monde ?
Oui, je pense que c'est intéressant. La première, ce qui s'est passé, qui a été extrêmement désagréable, c'est qu'il y a eu immédiatement une contre-pétition qui a été signée par des tas de scientifiques aussi, qu'on appelle l'appel de Heidelberg. Alors, ça dépend où. Hein. Aux USA, la première a quand même eu un peu de succès, mais en France, on n'a pratiquement parlé que de l'appel de Heidelberg, qui au contraire disait « attention aux écologistes, ils peuvent être irrationnels, il faut absolument maintenir un progrès technique qui réglera tous les problèmes de l'humanité, etc. » Je pense qu'il faut arrêter de croire que la maîtrise technique permettra de tout régler. Il y a des choses qu'on n'est pas parfaitement incapable de maîtriser techniquement dans la complexité de notre planète, et là, c'est pas de la maîtrise technique qu'il faut, ou si c'est une maîtrise technique, c'est une maîtrise technique qui prend en compte la complexité du système. Si vous voulez, l'agroécologie, par exemple, c'est une maîtrise technique bien plus grande que le fait de faire des biotechnologies. Mais c'est pas du tout la même. C'est une maîtrise des systèmes complexes, alors que les biotechnologies, c'est de la grosse artillerie lourde où on va bombarder des nouveaux gènes dans des génomes en croyant qu'avec ça, on va régler tous les problèmes. C'est pas du tout le même type de maîtrise technique. Et vraiment, il faut qu'on réoriente notre maîtrise vers une maîtrise de la complexité, non plus une maîtrise de petits éléments comme l'ADN ou chaque molécule du monde vivant. Ça, on n'y arrivera pas.
Jean-Guilaine, je vous voyais réagir.
Non, pas particulièrement, sinon que je suis de tout cœur avec mes collègues.
C'est déjà pas mal, ça fait 15 000 plus 1, voilà. dont Jean-Guilaine.
Alors, yes. Ce qui est intéressant, c'est que l'appel de Heidelberg a été signé par de nombreux scientifiques, à mon avis, totalement innocents. Ça a été bien décrit dans le
dernier
article.
Ils n'étaient pas vraiment conscients de ce qu'ils signaient.
Ah, pas du tout, ils savaient pas du tout que c'était le lobby des producteurs d'amiante qui avait lancé le truc, hein. Et d'ailleurs, on le savait, personne ne le savait, on se doutait que c'était des lobbies de technologie et pas du tout des gens qui s'occupaient réellement d'écologie, mais de là à savoir que c'était les producteurs d'amiante, ça on le savait pas. Je pense que beaucoup de gens, quand ils signaient l'appel de Heidelberg, s'ils savaient ce qu'ils ont signé, seraient extrêmement malheureux.
Pierre-Henri Gouillon, est-ce que c'est aux citoyens aujourd'hui d'exiger des politiques qu'ils aillent plus vite pour mettre en œuvre justement tous ces changements nécessaires ?
Bien sûr, c'est aux citoyens de l'exiger, mais on peut aussi espérer que les politiques eux-mêmes vont se rendre compte qu'ils ont une mission maintenant planétaire, ils ont une responsabilité énorme vis-à-vis des générations futures. Le futur jugera de leurs actions là aujourd'hui. Et s'ils continuent simplement à céder aux plus forts et aux lobbies qui ont le plus de moyens, eh bien, c'est clair que dans l'avenir, on pourra dire que ces dirigeants ont été totalement incompétents.
Merci beaucoup Pierre-Henri Gouillon en tout cas pour vos explications à la suite donc de la signature par 15 000 scientifiques dans le monde de cet appel qui a fait la une du Monde hier et qui a été publié dans la revue Bioscience. Merci beaucoup à vous et Agnès, à très bientôt.
À bientôt.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, de plus en plus d'enfants sont atteints de diabète de type 1 en France et en Europe. C'est le résultat d'une étude publiée aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale du diabète. 2000 cas de diabète de type 1 ont été diagnostiqués chaque année en France entre 2013 et 2015. Des chiffres qui ont doublé en 30 ans. Mais c'est surtout les jeunes de moins de 5 ans qui sont le plus touchés. Le diabète de type 1 est une maladie complexe due à une production insuffisante d'insuline, une hormone sécrétée par le pancréas. Le nombre d'adultes atteints de diabète est en hausse également. Ils sont 425 millions dans le monde et cette augmentation est une conséquence de l'épidémie globale d'obésité. Le plus vieux vignoble du monde se trouve en Géorgie. Jusque-là, les plus anciennes traces de vinification datant de plus de 5000 ans avant notre ère avaient été trouvées en Iran. Mais selon une nouvelle étude parue dans la revue PNAS, la vinification existait déjà 6000 ans avant notre ère au sud de la capitale géorgienne à Tbilissi. À partir des fragments de peau en céramique récupérés sur les sites de fouilles, des chercheurs de l'université de Pennsylvanie ont pu mettre à jour la plus ancienne preuve chimique du vin datant donc du néolithique. Ils ont mis au jour donc cette preuve, une tradition millénaire dans ce pays qui abrite plus de 500 variété de vin. Et puis un scarabée avec trois yeux tout à fait fonctionnels. Ce spécimen a été créé par des biologistes de l'université de l'Indiana aux États-Unis qui ont donc réussi à lui implanter un troisième œil au milieu du front en manipulant son code génétique. Le troisième œil a donc pu établir des connexions nerveuses de la même façon que les deux autres yeux. Une expérimentation qui peut inquiéter mais qui est aussi pour ces chercheurs une avancée dans la création et l'implantation d'organes hors de leur contexte naturel. Et la proto-histoire, c'est le thème de notre dossier dans un instant avec mon invité, Jean Guilaine.
I'm not afraid to die.
Tiamo, c'était Phoenix.
La tête au carré sur France Inter.
Les glaces s'éloignent peu à peu et la végétation va envahir les régions libérées. Les grands animaux ont quitté la contrée. Et voilà née l'agriculture. Alors que l'Europe vit encore sa préhistoire, qu'à Carnac, en Bretagne, on dresse des mégalithes à perte de vue, de hautes civilisations illuminent le Moyen-Orient et l'Asie.
Voilà, Jean-Guilaine, c'était pour le plaisir de réentendre un extrait de cette série « Il était une fois l'homme hein, » qui avait eu beaucoup de succès dans les années 80, pour parler avec vous de cette période tout à fait singulière de l'histoire de l'humanité. C'est la proto-histoire et c'est l'objet d'un livre que vous publiez chez Odile Jacob, « Les chemins de la proto-histoire » quand l'Occident s'éveillait 7000 à 2000 ans avant notre ère, avec les auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Vous êtes professeur au Collège de France, Jean-Guilaine, et spécialiste du néolithique. Alors, puisqu'on parlait de proto-histoire, est-ce qu'on pourrait d'abord définir où commence l'histoire? Parce qu'il faut situer tout ce qui est avant.
Oui, alors l'histoire, en principe, commence à partir du moment où il y a l'écriture.
Ouais, déjà, c'est un bon point de repère qui est si simple que ça, d'ailleurs, à marquer ou pas?
Et non, qui n'est pas simple en réalité, parce que si vous décidez que la proto-histoire, c'est ce qui est sans écriture, civilisation encore de l'oralité, civilisation d'agriculteurs, bien entendu, mais oui, qui sont dans l'oralité, et les civilisations ensuite historiques qui ont l'écriture, vous allez faire une césure en réalité, qui d'un point de vue géographique ne tient pas la route. Parce que au second millénaire avant notre ère, vous avez des civilisations dans l'est de la Méditerranée, Mycènes, les Hittites, les Égyptiens, etc., ou les Levantins, qui ont l'écriture. Donc, ils sont considérés comme historiques. À côté de cela, vous avez en Occident des civilisations qui sont des barbares, donc, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas l'écriture, mais il y a des échanges qui se font entre les deux. Donc, en réalité, tout ça interfère. Et donc, il y a des chevauchements. Comme il y a des chevauchements à l'amont, bien entendu, lorsque des chasseurs-cueilleurs se sédentarisent et deviennent des agriculteurs. Mmh. Voyez, donc les pôles sont difficiles. C'est ça. Le terme lui-même de proto-histoire, il a plusieurs sens. Le sens le plus strict, c'est lorsque il est question de populations qui n'ont pas l'écriture, mais qui sont évoquées ou décrites par des populations
qui
ont l'écriture.
Oui, c'est ça.
Alors, sur le sol français, par exemple, on la limite à 500 ans. Lorsque des auteurs grec, par exemple, commence à parler de façon très, très schématique, très simple, très de population gauloise.
Ouais, donc c'est vraiment l'antichambre de l'histoire. Là,
c'est l'antichambre de l'histoire.
Très, très courte.
Puis vous avez une autre acception qui est plus large, c'est les âges des métaux, en gros l'âge du bronze et l'âge du fer, n'est-ce pas ? Et puis vous avez l'acception qui est la mienne, autrement dit, à partir du moment où on a l'agriculture, où on a les villages, on entre dans l'histoire rurale. Une histoire rurale qui ne connaît pas encore le monde urbain. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, la proto-histoire, c'est plusieurs millénaires, ça part du néolithique, et ça arrive jusqu'à la fin des âges des métaux. Autrement dit, c'est le temps des villages avant qu'apparaissent les premières villes.
Ouais. Donc, c'est pas le néolithique. Ça part.
Ça englobe le néolithique. De mon point de vue, ça englobe le néolithique. À partir des agriculteurs qui se sédentarisent, on est dans l'histoire rurale. Donc, à mon sens, on est dans la proto-histoire.
Bon, ça veut dire que vous êtes pas tous d'accord, au fond, sur la définition de la proto-histoire.
Non, mais selon les acceptions, il peut y avoir des variations, des variantes entre les auteurs.
Mais alors, est-ce qu'on pourrait dire que la proto-histoire, finalement, commence au début de l'humanité, ou pas ?
Ah non, pas du tout. Parce que là, vous êtes au début de l'humanité, vous êtes dans le temps des chasseurs-cueilleurs, dont là, vous êtes dans le paléolithique. Pour moi, la vraie préhistoire, c'est la préhistoire des chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire les gens, depuis les origines de l'homme, jusqu'à la fin de ce que nous appelons le mésolithique, c'est-à-dire les derniers chasseurs-cueilleurs.
Ouais. Voilà. Pourquoi s'intéresser à cette histoire ? En tout cas, quels sont les enjeux de la proto-histoire, Jean-Guilaine, aujourd'hui, au regard de votre discipline ?
La proto-histoire avec le néolithique, c'est le grand basculement de l'humanité, c'est le grand tournant. Autrement dit, c'est le moment où l'homme se sédentarise, il devient paysan, il crée le village, il vit d'agriculture, les tensions sociales commencent à apparaître, la compétition, et puis surtout, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, la transformation de l'environnement. Parce que les néolithiques, c'était pas des écologistes. Ils avaient besoin de brûler les forêts pour avoir des champs à cultiver, pour avoir des prairies, des terrains de parcours pour pour leurs animaux. Donc, le paysage, à partir de ce moment-là, ne se construit plus sur des bases naturelles, mais sur des bases qui sont totalement artificielles.
Ouais. D'ailleurs, certains...
L'homme construit son décor.
Certains géologues, pour définir l'anthropocène, hein, cette période marquée justement par l'impact humain, certains proposent le néolithique comme étant le point de départ de l'anthropocène.
Exactement. Le néolithique, c'est le début de l'anthropisation. Autrement dit, on vit dans un paysage qui est transformé par l'homme. Le paysage devient en quelque sorte une construction sociale.
Ouais. Puisque vous parlez d'environnement, est-ce que le climat précisément a joué un rôle absolument prépondérant dans ce changement très important amorcé par l'humanité là ?
Alors, pendant longtemps on l'a cru, mais maintenant c'est beaucoup plus mitigé. On pense que quand même le néolithique est le facteur essentiel, ça n'est pas la contrainte climatique, mais c'est le développement psychique, intellectuel de l'homme qui s'est mis à qui a mis à laisser d'autres façons de construire sa vie.
Oui, mais le cerveau s'est développé donc plus rapidement. Comment on peut analyser les choses alors ?
Disons, il y a beaucoup plus de choses que le cerveau a pu intégrer, et on peut penser que d'une certaine façon, c'est le psychisme qui a joué effectivement dans cette volonté de mettre à l'essai d'autres styles de vie.
Ouais, mais l'environnement n'aurait pas joué du tout alors. Hein. Des conditions plus favorables, en tout cas, évidemment, à l'agriculture en particulier.
Mais l'environnement automatiquement est une composante qui intervient dans le système, mais qui n'est pas forcément absolument prépondérante.
Ouais.
Mais d'autres collègues vous diront le contraire.
Eh bien voilà, c'est ça. Donc c'est la version de Jean Guilaine qu'on va retenir pour cet après-midi. Vous écrivez, Jean Guilaine, que ces chemins de la proto-histoire sont également vos chemins à vous, ceux que vous avez empruntés en tant qu'archéologue.
Oui, ouais. Autrement dit, les centres d'intérêt qui ont été les miens, mais il y en a bien d'autres, heureusement d'ailleurs.
Oui. Pourquoi vous êtes intéressé autant à cette période et en particulier à ces premières sociétés, à tout ce qui concerne la métallurgie également ?
Parce qu'il me semble, je pense qu'il y a, il faut faire un peu de rétrospective là. Lorsque moi j'ai commencé à travailler, en fait, ça n'était pas une période, le néolithique ou la proto-histoire, qui était vraiment dans les clous.
Ouais.
Autrement dit, pendant très longtemps, on s'est intéressé au temps paléolithique, d'une part en raison des origines de l'homme, d'autre part en raison de l'ère quaternaire, qui au tournant des 19e-20e siècle, n'est-ce pas, est quelque chose qui a, ça a été une révélation, n'est-ce pas. Bon, donc le paléolithique a longtemps, en France en particulier, mais pas partout,
a
masqué un peu le néolithique. Ouais. Et puis à l'autre bout de la chaîne, vous aviez les civilisations de l'Antiquité, n'est-ce pas. Bon. Dont le néolithique constitue le socle. Mais ça, c'était un peu dans les brumes. Alors, si vous voulez, vous aviez d'un côté les paléolithiciens qui disaient « Bon, le néolithique, au fond, c'est un épiphénomène. C'est pas intéressant parce que l'homme commence à brouiller les cartes, à brouiller la nature. C'est pas intéressant. » Et vous aviez les antiquisants qui disaient « Bon, il n'y a pas d'écriture. »
Les antiquisants, on peut le dire comme ça.
Oui, les antiquisants. Oui. Donc, qui vous disaient « Bon, tout ça, ce sont les brumes de la préhistoire. » Nous étions rejetés des deux côtés.
Donc, vous avez fait votre nid, finalement,
disons, ma génération a contribué à réhabiliter une période qui était trop minorée et à montrer qu'elle était au fond l'un des grands tournants de l'humanité.
Mais c'est incroyable quand même, parce qu'effectivement c'est un grand tournant pour l'humanité. La vie sociale change complètement, les échanges, les rapports entre les hommes, la façon de vivre, la façon de se nourrir.
Évidemment.
Et tout ça intéressait peu avant les historiens ?
Ben, ça, si vous voulez, ça n'était pas institué, disons. Et je pense avoir un peu contribué, mais je suis pas le seul, bien entendu, à avoir donné un peu d'oxygène à cette période-là.
Où est-ce qu'il faut aller pour justement faire des fouilles autour de cette période de l'histoire ?
Partout. D'abord, je dirais pour le néolithique au Proche-Orient, bien entendu, parce que c'est là qu'apparaît l'agriculture, l'élevage, les premiers villages, qui ensuite seront diffusés à travers l'Europe jusqu'à l'Occident, mais pas que là, puisque le néolithique proche-oriental a également diffusé sur la côte méditerranéenne de l'Afrique, a diffusé vers l'Asie centrale, a diffusé vers l'Est, mais je ne voudrais pas non plus que l'on croie qu'il n'y a que ce berceau du néolithique au Proche-Orient. Vous avez un berceau dans l'ancien monde au Mexique, sur notre continent, vous avez également, en Asie par contre, vous avez également en Chine un autre berceau de naissance du néolithique, vous avez un berceau en Nouvelle-Guinée, donc la naissance du néolithique a lieu dans des laboratoires différents. Mais le Proche-Orient nous intéresse parce que c'est notre berceau.
Ouais. Alors, on parlera justement tout à l'heure de la pyramide de Teotihuacan en toute fin d'émission avec nos confrères de France 5 qui consacrent un documentaire et qui correspond justement à cette période. On trouve beaucoup d'objets aujourd'hui, beaucoup de traces pour décrire précisément cette histoire, cette proto-histoire.
Oui. Absolument. Et partout, en quelque sorte. Ouais. Il ne faut pas s'imaginer que les sites sont rares, les sites sont très abondants. Vous savez, Les archéologues ont trop de sites.
Vous êtes trop gâtés.
Le problème, c'est de trouver le bon site qui réponde aux questions qui sont posées à ce moment, au moment précis de la connaissance.
Oui, c'est ça. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a des objets qui peuvent vous paraître peu intéressants et qui finalement vont représenter un intérêt plusieurs décennies plus tard.
Bien sûr, bien sûr. Et puis, vous avez aussi toujours de nouvelles découvertes qui remettent en cause ou qui apportent du neuf. Je pense notamment à Göbekli, ce site de Turquie qui, il y a quelques années, a été en quelque sorte une illumination, comme l'avait été Çatalhöyük 20 ou 30 années auparavant.
Ça, c'est un site archéologique très, très important aussi, qui témoigne précisément de l'émergence de ces nouvelles sociétés.
Parce que là, Göbekli, on est sur le basculement, en quelque sorte. Autrement dit, c'est le moment où on voit des sociétés qui sont encore des sociétés qui vivent pour une large part de la chasse, n'est-ce pas ? On est sur le tournant de l'agriculture et qui construisent des monuments extraordinaires, puisque les découvreurs, au début, ont pensé qu'il s'agissait de sites du 7e millénaire, du 2e millénaire avant notre ère, c'est-à-dire de l'époque hittite, alors que ces monuments datés des environs de 9000 avant notre ère.
Jean Guilaine, vous êtes l'invité de La Tête au Carré cet après-midi. On parle avec vous de proto-histoire et les auditeurs nous rejoignent avec des questions que je vous transmets dans un instant. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque.
J'ai dans l'œsophage un anthropophage qui avait dans l'idée de m'empoisonner. Il disait petite tête, ôte-toi de la cumimette, je me suis résigné à le bouffer le premier mambo, miam miam. Mambo, miam miam. Mambo, miam miam. Mambo, miam miam. Sauvage ou pirate, on se tire dans les pattes et le moins malin peut crever de faim. Soldat ou artiste, on est tous des tristes, ciré malheur à qui manque d'estomac. Mambo, miam miam. Mambo, miam miam. Mambo, miam miam. Mambo, miam miam. Dans ma garçonnière, misère de misère, la femme du voisin se fait couler un bain. Quand la mienne se déhanche, j'ai le cœur qui flanche de voir les autres tudieux la bouffer des yeux. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Viendra le jour, certes, où la gueule ouverte, comme ça, de but en noir, j'irai me faire voir. Je ferai des orphelines, et par la racine, je boufferai les orties et les pissenlits. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam.
Miam. Voilà, il fallait piocher dans le deuxième album de Serge Gainsbourg en 1959 pour y trouver Mambo Miam Miam qu'on a écouté à l'instant.
La Tête au Carré, Mathieu Vidard.
Jean Guilaine, vous êtes avec nous pour ce livre Les chemins de la proto-histoire, quand l'Occident s'éveillait, et ça n'est pas rien, entre 7000 et 2000 avant notre ère aux éditions Odile Jacob. Pourquoi vous disiez tout à l'heure, c'est pas vraiment 2000 finalement la période?
Parce que ça, on peut arriver jusqu'à notre ère, quasiment, quoi. Autrement dit, englober, ce qui n'est pas inclus dans le livre, l'âge du bronze, l'âge du fer. Tout ça, c'est de la proto-histoire.
Au niveau de la façon de travailler, justement, la méthodologie aujourd'hui, en particulier pour les archéologues, on a de nouveaux outils à disposition, je pense à la chimie en particulier.
Ah oui, on a la
chimie. Ça bouleverse beaucoup aussi ça, l'interprétation qu'on peut faire des objets.
Oui, et la paléogénétique aussi, dans la mesure où on peut arriver à retrouver les zones d'origine des populations. Ouais. Alors on a des cas de figure très intéressants, par exemple avec le strontium, vous savez, cette espèce de minéral qui passe dans la chaîne trophique et puis ensuite qui se peut se fixer. Alors dans les dents, par exemple, pour la petite enfance, et puis dans les os, dans le courant de la vie. Donc,
ça, ce sont des signatures, au fond, des époques.
Oui, ce sont des signatures. Et donc, en vérifiant les deux données, on peut voir effectivement si le bonhomme a vécu toujours dans le même secteur ou s'il a bougé. On a un cas qui est bien connu, c'est ce que nous appelons l'archer d'Amesbury, qui est un personnage qui est né probablement dans la zone nord des Alpes et qui a fini sa vie en Angleterre, pas très loin de Stonehenge. Mm-hmm. Voyez.
Donc ça voyage. Les populations bougent.
Les populations bougent. On sait qu'au troisième millénaire, par exemple, des populations dites campaniformes, parce que elles utilisent une variété de récipients particuliers.
On en parlera tout à l'heure.
En Europe centrale, bougent également. Voyez.
Ouais. Donc ça veut dire quand même que malgré la sédentarisation, caractérise cette époque,
ça n'empêche pas les migrations.
On bouge encore beaucoup.
Et bien entendu, parce que vous avez les villages qui sont fixes, mais vous avez toujours des personnes, vous avez des scissions d'abord, vous avez des gens qui vont coloniser d'autres terres, et puis vous avez des gens qui font également de grands déplacements.
Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils voyagent? Il y a des échanges commerciaux, qui est ancrée dans l'âme humaine de bouger absolument pour aller à la rencontre de son prochain.
Au fur et à mesure que les siècles passent, en quelque sorte, on voit même des gens qui se déplacent. Et dans le courant de l'âge du bronze, vous avez déjà probablement des espèces de mercenaires qui vont se mettre à la disposition de potentats à droite à gauche. Les gens bougent beaucoup. Ouais. Les sociétés du néolithique et des temps qui suivent sont des sociétés de l'échange. Et les échanges impliquent aussi des mouvements de population. Ouais.
Mais c'est bien ça, il y a du brassage génétique finalement.
Il y a du brassage génétique.
Il y a du métissage. Hein,
oui, tout à fait.
Une question de Jean, est-ce que la roue a été déterminante? Est-ce que son invention a été déterminante? On peut juste rappeler l'époque?
Oui, en gros, le 4e millénaire avant notre ère. Alors, il y a des débats là-dessus. Hein. On ne sait pas, certains disent qu'elle a été inventée au Proche-Orient, d'autres disent qu'elle a été inventée dans les régions autour du Caucase. Mm-hmm. Autrement dit, est-ce qu'il y a un pôle d'invention ou est-ce que est-ce qu'il y a plusieurs pôles? En tout cas, elle se répand en Europe dans le courant du 4e millénaire. Ouais. Ainsi que la roue n'est pas seule. Les roues donnent donc des véhicules à roues, des chars, des charrettes, mais également l'attelage, le joug, puisque ce sont au début des bovidés qui traînent les charrettes, qui tirent les charrettes. Donc, vous voyez, le joug, l'attelage, les timons, les chars, tout cela fonctionne en même temps. C'est systémique d'une certaine façon. Et donc, évidemment, ça fait bouger beaucoup, beaucoup les choses, beaucoup les gens, parce que jusqu'à ce moment-là, on se déplaçait à pied.
Ouais.
Sauf sur mer, où là, il y avait des pirogues de l'état paléolithique.
C'est ça. Donc, les échanges, les déplacements dont on parlait tout à l'heure à travers l'Europe, on peut imaginer que ça se faisait à bord d'une charrette, par exemple.
Par exemple. Ouais. Mais certainement sur des tracés limités.
Jean Guilaine, on va écouter l'extrait d'un reportage qui concerne une statuette retrouvée en Auvergne à Pont-du-Château et qui date de 4500 ans avant notre ère. On commente juste après ensemble.
Tessons de céramique, pierres de toute taille, silex, ce sont tous ces morceaux d'objets datant du néolithique trouvés sur un site de Pont-du-Château que les archéologues de l'INRAP répertorient depuis plusieurs semaines.
C'est des types de contenants qui sont des formes hautes, donc en fait c'est des jarres. Dans le contexte aussi dans lequel on est, c'était probablement pour stocker ponctuellement les grains de céréales avant retraitement thermique ou avant mouture.
Au milieu de ces outils, jarres et autres vases, les archéologues ont mis la main sur cette statuette. On appelle habituellement ce type de figurine des déesses-mères. Une quinzaine de ces statuettes ont été découvertes dans le sud de la France et pas moins de 6 en Auvergne, dont celle-ci. Quels indices cette statuette pourrait donner sur les populations qui vivaient sur ce site près de 4000 ans avant notre ère, objets de culte ou simples jouets d'enfants? Ce qui est sûr, c'est que dans ces sociétés du néolithique, la femme semblait jouer un rôle prépondérant.
Alors Jean Guilaine, on se pose beaucoup de questions quand on trouve un objet. Hein. Après l'avoir daté, on peut se demander à quoi il a servi. Est-ce qu'il y a toujours une fonction utilitaire? Est-ce qu'on est face à un objet d'art, tout simplement? Parce que c'était le cas, on faisait aussi des objets juste pour leur beauté, leur esthétique. Qu'est-ce que ça nous raconte, alors, par exemple, une statuette comme celle-là?
Eh bien, écoutez, ces figurines, on en trouve beaucoup dans le néolithique. Pas tellement en France, d'ailleurs, mais beaucoup au Proche-Orient, en Grèce, dans les Balkans, etc. Alors, Pendant longtemps, on s'est interrogé et on a pensé que cela pouvait être des représentations de divinités. Ce culte de la déesse mère a eu un gros succès en archéologie. On est beaucoup plus circonspect aujourd'hui parce que si c'était des divinités, elles devraient être trouvées dans des temples, c'est-à-dire dans des lieux cérémoniels, etc. Or, souvent, on les trouve cassées à la poubelle, d'une certaine façon. Et donc, on pense qu'elles ont pu avoir des fonctions très, très diverses. Ça a pu être des portraits, ça a pu être des représentations d'aïeuls, de lignées, ça a pu être des jouets. Lorsqu'on les trouve dans les tombes, ça a pu être des substituts de femmes, de concubines, de servantes. Mmh. On a des tas d'explications que conforte d'ailleurs l'ethnologie. Donc, l'explication spécifiquement religieuse, aujourd'hui...
Prudence.
Elle n'est pas entérinée.
Oui, ça c'est un reportage qui date de 2008, qui a été diffusé sur France 3 Région, et on a appris des choses évidemment depuis sur la façon d'interpréter. Charles nous dit ceci sur franceinter.fr, est-ce qu'on peut dire que la proto-histoire, Jean Guilaine, voit l'apparition d'inégalités et d'un certain capitalisme ?
Alors, inégalité, très probablement, parce que le propre de ces sociétés néolithiques, c'est-à-dire des gens qui produisent, des céréales, qui produisent des denrées, qui ont des troupeaux de bêtes, etc. C'est le début de la capitalisation.
Oui.
C'est le début de la richesse. Et donc, les richesses peuvent entraîner, évidemment, des convoitises et donc des conflits.
Oui.
Et en même temps, ce qu'on voit, c'est que à l'intérieur même de ces sociétés, on va voir très vite l'existence de dominants et de dominés. Ça, c'est le propre des sociétés néolithiques. Très vite, la hiérarchie sociale s'impose.
Oui.
Elle s'impose probablement déjà au Proche-Orient, où l'on voit de grands sites qui, en quelque sorte, voient fluer des objets qui sont ensuite répartis dans des sites périphériques. Donc, on peut penser que ces gros sites sont gérés par une élite. Je reste vague volontairement, n'est-ce pas ? Donc, quand même des gens qui dominent le corps social. Mais vous avez ensuite les sépultures qui permettent, évidemment, de montrer des différences de statut absolument évidentes. Par exemple, à Varnam, Bulgarie, vous avez une nécropole vers 4500 avant notre ère, où vous avez des personnages qui sont dont les vêtements sont chamarrés, recousus d'objets en or, avec des bracelets en or, avec des sceptres dont le manche est enrobé d'or. Donc, vous avez déjà des dominants qui sont à la tête de ces sociétés. Et si je prends à la même époque notre exemple en France, vous avez de très grands tumuli qui sont construits en Bretagne, dans la région de Carnac.
Qu'est-ce que c'est exactement ?
Et ce sont des grands tertres, n'est-ce pas, qui ont dû entraîner la mobilisation de tas de gens pour les construire. Et là-dedans, vous avez quelques individus à peine qui sont enterrés avec des haches polies qui sont très grandes, qui ne sont pas fonctionnelles, qui sont des marqueurs sociaux, et dont la matière première se trouve dans les Alpes, ou des colliers de perles en varicite dont les origines, dont l'extraction a peut-être eu lieu en Andalousie. Voyez ? Donc vous voyez, ces gens qui sont capables de capitaliser dans leur mort des objets qui sont des objets d'apparat, des objets de prestige, et sous des tertres qui ont demandé évidemment un travail colossal pour être construits.
Ouais.
Donc vous voyez, les différences sociales sont très très fortes, à certains moments du néolithique.
Alors c'est ça, parce que ces dominants, ces élites là que vous décrivez, Jean Guilaine, est-ce qu'elles sont autoproclamées ? Est-ce qu'elles sont élues par
ça,
des sociétés ? Qu'est-ce qu'on peut en savoir ?
Ça nous ne le savons pas.
Ouais.
Ça nous ne le savons pas. Nous constatons certaines choses, mais nous ne pouvons pas dire quel est le mécanisme qui a imposé en quelque sorte à la tête de ces populations ces personnages de haut rang.
Jean Guilaine, au cœur de la proto-histoire, c'est dans La Tête au Carré.
C'est comme si j'étais devenu un monstre d'amour. Mes jambes flanchent, mon cœur est lourd. Je finirai par m'étouffer dans tout ce velours. J'ai beau hurler, mes cris sont sourds. Dis-moi, dis-moi pourquoi je sens dans des ombres dans lesquelles je me noie. Dis-moi, quelle est cette colère ?
transformé en monstre d'amour. Et j'ai perdu famille et bravoure. Mes yeux ont appris par cœur tes formes et tes contours. Il est devenu quand s'éteint le jour. Dis-moi pourquoi je sombre dans des eaux, dans des ombres, dans lesquelles je me noie. Dis-moi quelle est cette colère qui me tord, qui me terre, que je ne connais pas.
Elle s'appelle Clara Luciani avec Monstre d'amour.
La tête au carré sur France Inter.
Et Jean-Guilaine avec nous pour parler des chemins de la proto-histoire donc qui paraît chez Odile Jacob avec cette période tout à fait essentielle à l'histoire de l'humanité avec vos messages sur le site de la Tête au Carré. Véronique qui nous demande ceci, Jean-Guilaine qui vous pose cette question. Le néolithique, est-ce que ça ne marque pas finalement le début de la domination de l'homme sur la nature dont on voit les conséquences aujourd'hui? On en discutait un petit peu tout à l'heure avec l'Anthropocène.
Oui, absolument, absolument. L'homme voit qu'il peut transformer la matière végétale, par exemple les graines de blé deviennent plus gros, il observe, et il transforme progressivement, bien entendu, le squelette, le corps des animaux domestiques. Donc l'homme prend progressivement conscience, parce que la révolution néolithique, c'est pas du jour au lendemain, hein. C'est une expression, révolution néolithique, mais c'est une révolution de temps long.
Sur quel temps alors?
En gros, pendant 2000 ans, quoi, entre le moment où il se sédentarise et le moment où les céréales et les animaux ont un aspect totalement modifié par l'homme. L'homme se rend compte qu'il transforme la nature, qu'il devient le maître de la nature en quelque sorte. Et je pense que ça a dû un peu lui monter à la tête.
Ça chauffait sous le capot.
N'est-ce pas? Oui, tout à fait, parce que c'est à partir de ce moment-là que l'on voit apparaître, au Proche-Orient en particulier, ça ne durera pas d'ailleurs, des statues où il se représente. Donc, il a vraiment conscience à ce moment-là qu'il est en train de se situer au sommet de la pyramide, si je puis dire.
Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'ils ont devenu, nos chasseurs-cueilleurs, alors, dans cette histoire néolithique, dans cette proto-histoire? Ils ont été totalement balayés du jour au lendemain ou il y a encore
écoutez, comme je l'ai dit, c'est une affaire de temps long. Donc, petit à petit, on est passé d'un style de vie, du style de la chasse, du style de vie de la chasse, à l'agriculture. Et tout cela, évidemment, a demandé du temps et petit à petit, ils ont été acculturés, n'est-ce pas ? Autrement dit, ils sont devenus des agriculteurs. Ouais. Alors, au Proche-Orient, évidemment, là où le phénomène s'est produit, ce sont des chasseurs-cueilleurs qui sont devenus des agriculteurs. Mais partout ailleurs où le néolithique s'est diffusé, chaque fois que ces migrants avançaient, ils se trouvaient devant des populations de chasseurs-cueilleurs. Alors là, ces chasseurs-cueilleurs, ils ont été acculturés progressivement, c'est-à-dire qu'ils ont été convertis en quelque sorte à l'agriculture.
Oui. Mais ça s'est fait facilement ou ça s'est fait dans des conditions de tension quand même
Il a pu y avoir des tensions, effectivement, ça nous le savons pas, mais il est probable que les chasseurs ne se sont pas laissés spolier de leur territoire de chasse, n'est-ce pas, par les nouveaux venus.
Est-ce que la guerre serait née comme ça, au fond, finalement?
La guerre, elle est née auparavant, moi, je crois. Je pense qu'elle est née déjà dès au moins dès la fin du temps des chasseurs-cueilleurs, parce que nous avons des traces, à la fois au Soudan, d'individus qui ont été tués par leurs semblables et dont les pointes de flèches sont encore fichées dans les eaux. Il y a également des cimetières de chasseurs-cueilleurs dans les Balkans, dans les gorges du Danube, par exemple, où on a des traces de conflits qui sont de l'époque des chasseurs-cueilleurs. Mais ce sont des chasseurs-cueilleurs qui sont souvent en cours de sédentarisation. Donc on peut penser que ces premiers conflits ont pu naître précisément pour l'appropriation de territoires qui, à cette époque-là, pouvaient être des territoires, disons, juteux, c'est-à-dire où l'on pouvait trouver à la fois de l'eau, où l'on pouvait pêcher, où l'on avait des animaux qui venaient peut-être boire et que l'on pouvait tuer, où il y avait peut-être des graminées. Donc il y a probablement la sédentarisation qui a pu contribuer à entraîner des confrontations, des conflits, bien avant que l'agriculture ne soit présente.
Oui, c'est ça, parce qu'on ne choisit pas un lieu où on va s'installer durablement, comme ça, au hasard. Il faut des conditions particulières, surtout, de ressources, surtout quand on arrête de bouger.
Voilà, surtout au début, effectivement, de la sédentarisation. Mmh. Autrement dit, on essaie de se retrouver dans un biotope qui permet en quelque sorte d'avoir plusieurs ressources à sa disposition. Et parfois, des biotopes qui sont au point de jonction de plusieurs ensembles écologiques différents. Parce que là, on peut, sur un espace plutôt restreint, en quelque sorte, avoir des ressources, n'est-ce pas, qui permettent de se nourrir tout au long de l'année.
Jean Guilaine, dans votre ouvrage, beaucoup d'œuvres, beaucoup d'objets et de sites mégalithiques, par exemple, on va partir en Bretagne tout de suite, écouter un court reportage d'Arte qui consacrait son documentaire sur nos traces au cairn de Gravigny dans le Morbihan.
Gravigny. Sur cette île, au large du port, les archéologues ont retrouvé l'un des plus grands mégalithes d'Europe.
Ce mégalithe qu'on voit là-bas, c'est le cairn de Gavrinis.
Avec ses 30 mètres de diamètre, c'est un édifice monumental pour le néolithique.
Ah, nous voilà à l'intérieur.
Oui, le plafond est entre 1,50 m et 1,70 m, mais avec une hauteur assez constante.
Je me trouve dans un couloir de 14 mètres de long. Ses parois sont extrêmement bien conservées. Elles sont entièrement recouvertes de formes géométriques et de signes qui se prolongent jusqu'au fond du couloir.
C'est ici que étaient déposés les morts. Donc en règle générale, pour ces périodes-là, ils sont déposés en position anatomique, soit repliés sur le côté.
Ici, on pouvait enterrer jusqu'à combien de morts ?
Pour cette période-là, une dizaine, quinzaine de personnes, c'est quand même la norme pour l'ensemble de ces tombes.
Selon les archéologues, ce cairn n'est pas seulement un monument funéraire. C'est surtout un temple, un lieu de culte où la communauté vient se rassembler. Car selon eux, cet ensemble de dessins unique au monde n'est pas un simple décor. Ce sont des signes sacrés, porteurs de messages pour les vivants.
Voilà Jean-Guilaine, ce site donc de Gravinis dans le Morbihan qu'on peut visiter toujours aujourd'hui. Il faut prendre un petit bateau pour aller sur l'île.
Voilà, pour aller sur l'îlot et on visite.
Quel spectacle, c'est extraordinaire.
Ah, c'est extraordinaire.
Il faut regarder les images sur Internet.
Voilà, parce que c'est un monument qui a toutes ses parois pratiquement gravées. Et alors, phénomène intéressant d'ailleurs, l'une des tables de couverture, en réalité, possède une gravure qui provient d'une stèle antérieure. Autrement dit, on a d'abord dressé une stèle, puis cette stèle, on l'a cassée, et l'un des morceaux de la stèle, qui comporte certaines de ces gravures, a été utilisé comme table de recouvrement du mégalithe de Gavrinis.
Chantal de Gourvillette, en Charente, demande comment les hommes de l'époque ont transporté ces pierres, précisément. Quels étaient les moyens employés ?
Il y a eu beaucoup d'expériences là-dessus. On a un système de rondaines, de cordages, on tirait ces pierres, et puis ensuite, on faisait des fosses pour pouvoir les dresser.
Ça a l'air tellement facile à vous écouter.
Ça a été étudié, il y a eu beaucoup d'archéologie expérimentale là-dessus, mais évidemment, il faut un certain nombre de bras et ça mobilise un certain nombre de personnes.
Il fallait combien de temps pour ériger des sites comme ça, quand même monumentaux, non ?
Monumentaux, oui.
Ouais, il fallait très nombreux, il fallait beaucoup de temps pour le faire ?
Probablement beaucoup de temps, mais là, je ne peux pas donner une réponse absolument précise. Tout dépend du volume du mégalithe ou du monument construit, bien entendu.
Alors pareil, les habitudes, les rites funéraires, qu'est-ce qu'on sait exactement de l'époque ? De quelle façon étaient utilisées justement ces pierres ? À qui étaient-elles réservées ?
Alors, s'agissant des mégalithes, là, on pose un problème bien particulier, parce que tout au long de la proto-histoire, vous vous doutez bien qu'il y a des tas de rites funéraires, il y a des tombeaux, des caveaux, des gestes funéraires qui sont très très variés, évidemment. Mais si vous restez sur le thème des mégalithes, effectivement, comme le disait mon collègue tout à l'heure, les premiers dolmens, par exemple, sont réservés à un nombre de sujets relativement restreint. C'est-à-dire qu'il y a un filtrage qui se fait. Tout le monde n'a pas accès aux caveaux. À la mort de certains ont accès au caveau et d'autres sont éliminés. On ne sait pas d'ailleurs souvent ce qu'ils deviennent parce que le nombre de disparus par rapport au nombre de gens conservés est colossal. N'est-ce pas ? Et puis, il y a des modifications à l'intérieur même du mégalithisme, c'est-à-dire que quelques siècles après, on va construire d'autres formes de mégalithes, et là, au contraire, il y aura beaucoup de gens qui seront enterrés dans les mégalithes. Il y a des mégalithes dans lesquels vous retrouvez facilement 200, 300 corps, vous voyez ? Mais ils sont plus récents que les premiers que j'ai évoqués. Donc, il y a un filtrage des individus qui sont enterrés dans les monuments qui varie au cours du temps. Tout dépend si le passeport d'entrée dans le monument à telle époque est très rigide ou au contraire s'il est beaucoup plus lâche.
Donc il y a encore beaucoup de recherches à mener, si je comprends
bien. Beaucoup, hein. évidemment.
Et il faut inviter les jeunes archéologues à s'engager hein, et puis
à
pouvoir poursuivre ces travaux.
Encore faut-il que les postes soient là.
Oui, ça c'est un autre problème, il est réel et on pourra en parler à une autre occasion. En attendant, Jean-Guilaine, on peut s'intéresser donc à la proto-histoire en découvrant votre ouvrage, Odile Jacob, « Quand l'Occident s'éveillait ». Merci beaucoup. Et d'ailleurs, on reste encore dans cette période de la proto-histoire. Merci à vous.
Merci à vous.
La science grand format en partenariat avec France 5.
Avec ce soir à 20h50 donc sur France 5, le Mexique et ce documentaire La cité perdue de Teotihuacan. Et on en parle avec vous, Amandine Picot. Bonjour.
Oui, bonjour Mathieu.
Vous travaillez à la direction de l'unité documentaire. Alors, qui sont ces Indiens Teotihuacanos du documentaire de ce soir, Amandine?
Alors, ces fameux Teotihuacanos sont beaucoup moins connus que les Mayas ou les Aztèques, parce qu'il reste encore peu d'écrits sur eux. Pourtant, c'était un peuple majeur au Mexique, parce qu'ils ont édifié une cité vraiment très prospère dans toute la Mésoamérique.
Alors aujourd'hui, Teotihuacan fait partie des sites archéologiques, je crois, les plus visités du Mexique. C'est impressionnant.
Oui, tout à fait. Quand les Aztèques l'ont découvert, ils l'ont aussitôt considérée comme la cité des dieux, tant qu'elle était majestueuse. Et d'ailleurs, elle passionne aussi beaucoup l'archéologue David Carballo, qui y étudie depuis 18 ans. Donc on va le suivre tout le long du documentaire. Il nous explique ce qui faisait la grandeur de cette civilisation et comment la cité a été bâtie selon un plan vraiment bien précis. Un même schéma qui se répète à chaque fois dans tous les édifices de la cité.
Est-ce qu'il va expliquer à quoi servaient justement ces pyramides ?
Oui, elles servaient à des cultes religieux et grâce à des images en trois dimensions, on verra à l'intérieur de l'immense pyramide du Soleil et aussi à l'intérieur du temple du serpent à plumes.
Eh bien, on écoute justement un extrait du doc à découvrir ce soir.
Dans la cellule centrale du monument, ils exhument 20 squelettes, presque intacts et disposés avec soin. Au total, plus de 260 squelettes ont ainsi été emmurés dans la structure de la pyramide. Le temple est une immense fosse commune. C'est une découverte macabre. Mais les morts renferment peut-être de précieuses informations sur cette ancienne civilisation.
Voilà, c'était des offrandes, Amandine ?
Tout à fait, mais je vous rassure, ils n'ont pas découvert que des corps, ils ont aussi exhumé plein de magnifiques statuettes en pierre et des objets en jade et en obsidienne. Voilà, parce que comme chez les Mayas, ces sacrifices humains faisaient partie de leur rite. C'est pour ça qu'ils ont retrouvé beaucoup de squelettes et d'objets. Mais bon, ça a été beaucoup de précieux indices pour les scientifiques. Et ils nous expliquent qu'est-ce qui a fait la richesse de cette cité et aussi pourquoi elle a été abandonnée en seulement 900 ans après sa création.
Eh bien, on va le découvrir ce soir. La cité perdue de Teotihuacan à 20h50 sur France 5 dans la case Science Grand Format. Merci beaucoup Amandine Picot. Ainsi s'achève cette tête au carré. Merci à Pierre-Yves Derolin et Antoine Deboul qui étaient aujourd'hui à la technique.